Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Brice Couturier qui fait le tour du monde des idées.
Des bonjour Yvelines. Brice.
C'est pas mal aussi. Bonjour Brice, on parle des États-Unis. Quelle place pour les États-Unis dans l'ordre international si son président décide de rompre avec le système mis en place dans une large mesure par les Américains eux-mêmes? Voilà la question, Brice.
Eh oui, c'est un sujet sur lequel planchent en ce moment tous les think tanks. L'élection de Donald Trump marque un tournant dans la manière dont les Américains perçoivent leur rôle sur la scène internationale. On n'imagine pas les États-Unis nous faire une de ces crises d'isolationnisme auxquelles ils ont succombé à plusieurs reprises dans le passé. Non, Trump lui-même n'appartient pas à cette école. C'est un disciple d'Andrew Jackson, un Jacksonien. Et ces gens-là estiment globalement que le rôle du président est de se recentrer sur les intérêts américains. Ils sont méfiants envers l'idée selon laquelle les États-Unis auraient une espèce de mission universelle à accomplir. Traditionnellement, ils soupçonnent les élites libérales, Washington comme on dit, de négliger les intérêts américains au profit de vastes desseins. Les Jacksoniens sont en diplomatie des réalistes, avant tout préoccupés de la sécurité de leur propre pays. Or les États-Unis ont de vastes intérêts à travers le monde. Les défendre implique de maintenir les dépenses militaires à un niveau élevé. Si les États-Unis avec Trump vont renoncer en partie à jouer le rôle central qui était celui de l'ex-hyperpuissance, ils ne vont donc pas pour autant se retirer du monde. Mais il est cependant évident que l'élection de Trump marque un tournant diplomatique pour les États-Unis. C'est ce qu'estime en particulier Richard Haass, le président du Council on Foreign Relations. L'engagement de naguère envers les institutions internationales telles que le FMI fait place à une conception résumée par l'expression « l'Amérique d'abord ». Les alliances militaires elles-mêmes ne sont plus aussi crédibles que par le passé. Le soutien des États-Unis sera accordé en fonction de la manière dont le président considère qu'il sert ou non les intérêts américains. Et de manière générale, la nouvelle administration voit le commerce international et l'immigration avec suspicion. Elle n'est pas favorable à la mondialisation. Alors qu'on ne s'attende pas, confirme Richard Haass, à un tournant isolationniste. Non, les États-Unis ne se sont pas retirés du Moyen-Orient. Ils vont resserrer l'étau sur la Corée du Nord, dont le programme nucléaire militaire les inquiète réellement. Mais l'époque où Washington aspirait à dominer l'ordre mondial et à le faire coïncider avec l'image que les États-Unis se font d'eux-mêmes, cette époque est terminée. Une phase se termine, celle du leadership américain.
Et donc s'ouvre cette question, les États-Unis peuvent-ils être remplacés dans le rôle de leader planétaire? Une autre puissance peut-elle prendre la tête de la mondialisation?
Oui, et chacun a ses candidats évidemment. On parle beaucoup de la Chine, qui a pas mal d'atouts, j'y reviendrai demain. Mais l'Union européenne, notre Union européenne elle-même, est bien configurée pour prendre le relais. C'est ce que prétend par exemple Javier Solana, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Espagne, ex-secrétaire général de l'OTAN. Puisque les États-Unis renoncent à jouer le rôle de stabilisateur de l'ordre international et de promoteur de l'internationalisme libéral, eh bien l'Union européenne devrait poser sa candidature, c'est ce qu'estime Solana. L'Europe est mieux à même d'assumer un rôle de leader que les États-Unis parce qu'elle est mieux adaptée à un monde multipolaire. La Chine elle-même, poursuit-il, est embarquée dans la mondialisation et ne doit plus être considérée comme une puissance révisionniste de l'ordre international. Elle est devenue l'un des principaux actionnaires, écrit-il, de la mondialisation. De son côté, l'Union européenne, grande puissance commerciale, peut, en partenariat avec la Chine et les autres émergents, revigorer les institutions internationales multinationales. Sous-entendu, si les États-Unis entendent tourner le dos à la mondialisation, eh bien, on peut continuer sans eux. Ce n'est pas du tout l'avis de Richard Haass, on s'en doute. Pour lui, l'Europe est trop occupée à régler ses problèmes internes pour pouvoir se projeter sur la scène mondiale avec un réel succès. L'Union européenne, écrit-il, je le cite, pèse moins lourd en tant que bloc que la somme des États qui la composent. Trop légère en un mot pour prétendre remplacer les États-Unis. Quant à la Chine selon Haass, ses dirigeants ont trop à faire pour maintenir une croissance artificielle et conjurer le risque, le spectre de la révolte populaire. Elle ne peut donc pas jouer sur la scène internationale le rôle que lui autoriserait en théorie sa puissance. Ses priorités d'ailleurs sont la consolidation de son influence géopolitique et non pas la création de règles ou l'organisation du monde. Alors ce qu'on peut espérer de mieux de la Chine, dit-il, c'est qu'elle promeuve un encadrement du commerce et des mécanismes assurant la sécurité dans sa propre zone d'influence, à savoir en Asie. Car l'une des alternatives à l'ancienne mondialisation serait la formation de blocs régionaux intégrés. Mais la Chine n'a même pas les moyens, dit-il, de prévenir un conflit toujours possible entre l'Inde et le Pakistan. L'absence d'un successeur désigné à la puissance américaine ne signifie pas que le monde multipolaire va nécessairement glisser vers le chaos, comme le prétendent les esprits chagrins, poursuit Richard Haass. On peut imaginer que les pays les plus puissants se mettent d'accord entre eux afin de remplacer les États-Unis, une espèce de leadership collégial en somme. Mais ma question, c'est pourquoi les Américains tiennent-ils tellement à l'existence d'un leader mondial ? Après tout, l'humanité a su s'en passer durant des siècles.